franceinter.fr.
Nous sommes dans une rotonde qui s'ouvre sur la mer avec le public du Festival des Étonnants Voyageurs, public de lecteurs, attentifs, exigeants et généreux. Et c'est un festival qui fête son 25e anniversaire. C'est une belle histoire. Les participants sont chaque année plus nombreux. Le niveau ne cesse de s'élever. Ce qui signifie au passage que quand on donne un contenu de qualité au public, le public vient. C'est à méditer, y compris d'ailleurs pour ceux qui dirigent, par exemple, les grands services publics de télévision et de radio. 3D commence, c'est Fabrice Laigle qui réalise l'émission aujourd'hui. C'est Éric Audrin et Christophe Goudin qui sont à la technique. C'est Agathe Maire qui m'a aidé à préparer l'émission.
3D, le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Alors les étonnants voyageurs, bien sûr avec vous, Michel Lebris qui est écrivain, philosophe, directeur et créateur du festival Les Étonnants Voyageurs. 25 ans, et vous êtes toujours aussi jeune.
Mais je ne suis pas sûr, mais enfin, bon, ça maintient jeune en tous les cas.
Mais même ça rajeunit au fond. Mais on va en parler dans un instant, il se passe des choses étonnantes dans ce festival chaque année. À vos côtés, Teresa Crémisi, bonjour madame.
Bonjour.
Éditrice, vous êtes encore, pour quelque temps, pas très longtemps, à la tête du groupe Flammarion, l'un des plus grands éditeurs de France. Vous êtes italienne, vous êtes une femme, vous portez sur le monde dans lequel nous sommes un regard exigeant, vous aussi. Et vous êtes maintenant auteur. Vous venez de signer votre premier roman qui a pour titre, je pense que c'est pas, il faudra qu'on y revienne à votre titre, parce qu'à mon avis, il n'est pas indifférent. Vous avez titré votre roman « La Triomphante ».
Ben non, il n'est pas indifférent. C'est à la fois un titre un peu provocateur et un peu effronté, et c'est aussi un titre nostalgique.
Oui, et puis qui ne ment pas au fond, parce que c'est vrai que vous avez triomphé à la tête de Flammarion quand même. Si, si, allez, ne faites pas la modeste.
Il ne ment pas, il ment un peu.
À vos côtés, un historien qui est très en pointe sur ce que l'on appelle désormais, et tant mieux, l'histoire globale, l'Indien Sanjal Subramanayam. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le monde a changé, il faut donc penser les choses différemment.
Oui, bien sûr, mais en fait on pense l'histoire globale depuis très longtemps.
Oui, mais peut-être qu'on ne le savait pas, ou qu'on ne le disait pas suffisamment, mais on y reviendra là aussi. Et à vos côtés aussi, Pierre Bordage. Bonjour, monsieur Bordage.
Bonjour.
Écrivain de science-fiction, auteur de nombreux romans, vous venez de publier Les Dames Blanches, qui vient de paraître cette semaine aux éditions de La Talente. Comme il se trouve que le Festival Étonnant Voyageurs pose une question très ouverte, où allons-nous ? Je pense qu'un auteur de science-fiction a quelques moyens de répondre à une question de...
Oui,
de
vous avez prononcé le mot science-fiction et personne ne s'est levé pour quitter la salle, c'est bon signe.
Non, c'est formidable la science-fiction. Et puis Aurore Vincenti, bonjour Aurore.
Bonjour Stéphane.
Quel est le mot choisi en préambule à ce 3D aux étonnants voyageurs ?
Ils sont importants les mots dans un festival comme celui-ci. Alors si on veut répondre à une question comme « Où allons-nous ?», on ne peut pas se passer de mots. Des mots comme « réenchanter ». Par exemple, on en aurait bien besoin de réenchanter le monde. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a senti qu'on en avait besoin que ce cher Robert, peut-être que derrière se cache Alain, notre ami dictionnaire, vient d'accueillir dans sa nouvelle édition ce verbe réenchanter qui n'y était pas. Le dictionnaire est une terre d'accueil. Chaque année, de nouveaux mots immigrent et on peut y faire d'étonnants voyages. Mais le mot voyageur que j'ai choisi pour ouvrir le bal de 3D est avenir. Le voilà. C'est le mot d'aujourd'hui, mais peut-être aussi le mot de demain. Et cette tension entre aujourd'hui et demain, on la retrouve tissée dans la trame du mot, avec le préfixe latin « ad ». « Ad venir »,« ad venire » en latin, ce préfixe indique une direction, il impulse un mouvement, vers. Par exemple, quand on va à Saint-Malo, « ad Saint-Malo », le « a » avec accent dit le déplacement entre un point de départ et Saint-Malo. Dans ce cas-là, le déplacement est spatial. Alors que dans « à venir », le mouvement est aussi temporel. Il va du moment présent, celui où je parle, ici et maintenant, jusqu'au moment qui va venir, situé dans l'après. Donc l'avenir n'est pas simplement un point situé après, sans corrélation avec maintenant. Non, l'avenir habite déjà le présent. Il est une force, une puissance dynamique. Il est dans la tension permanente, tension vers ce qui vient. En somme, le « a » jette un pont vers ce qui vient. Car la voilà, la deuxième composante de cet avenir, le verbe « venir ». Pas le verbe « aller », comme dans « Où allons-nous ?». Mais le verbe « venir », ça fait toute la différence. Le verbe « venir » ne va pas dans la même direction que le verbe « aller ». Vous la sentez, la différence ? Vous la sentez, Stéphane ?
Ah ben, énormément.
Ben, j'espère, hein. Ça commence bien. Dans « aller », le point de départ est là où vous êtes. Alors que dans « venir », le mouvement s'effectue vers vous. Le point de départ, il est ailleurs. Rupture donc entre « où allons-nous » et « avenir ». Et justement, il est intéressant ce paradoxe de l'avenir. Le préfixe « a » dit le mouvement vers l'après, alors que le verbe « venir » fait le chemin en sens inverse. Il y a comme un choc des directions, ou plutôt une rencontre entre ce qui vient, ce qui avance, pardon, et ce qui vient. Donc il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui vient, et bim, rencontre. Dans l'aller, il y a quelque chose de très volontaire. Alors que dans l'avenir, nous avançons et nous recevons ce qui vient à notre rencontre. Une posture plus humble face au monde qui ne place pas la volonté de l'homme seul dans la chaîne causale. L'avenir décentre la perspective. Il n'est pas purement anthropocentré. Non, nous ne sommes pas les maîtres du monde. Notre puissance est limitée. Peut-être faudrait-il dire alors « où avenons-nous ?» Ou alors, plus joliment et en respectant cette même énergie contenue dans le nom « avenir », où nous aventurons-nous ? Mais oui, avenir et aventure ont la même origine. Programme plutôt réjouissant pour un voyage. Mais peut-être que la poésie des mots nous éloigne trop, un peu trop, d'un réel désenchanté.
On va voir ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit si désenchanté que ça, d'ailleurs. J'ai de la chance, moi, je suis entouré de femmes dans 3D. Et je sais, Michel Lebris, la place importante que vous réservez aux femmes dans votre réflexion. On y viendra dans un instant, mais d'abord, tout de même, le regard porté par Caroline Cartier sur les étonnants voyageurs.
Venez-vous de si loin ?
Voyageurs.
Venez-vous de si loin ?
Étonnant.
Ou bien de mon désir ?
Où allons-nous ?
Pour eux, c'est la fin du cauchemar. 324 migrants ont finalement réussi à débarquer en Indonésie, dans la province d'Aceh. Parmi eux, 26 femmes et 30 enfants, épuisés, malades pour beaucoup.
Où allons-nous ?
Selon les autorités locales, la majorité de ces boat people seraient membres de l'ethnie Rohingya.
Venez-vous de si loin ? C'est ce que nous saurons lorsque vous entrerez.
Le groupe État islamique s'est emparé ce soir de la quasi-totalité de la ville antique de Palmyre, dans le centre de la Syrie.
C'est ce que nous saurons lorsque vous entrerez. Si vous venez de loin, vous me regarderez.
Les forces spéciales françaises éliminent 4 terroristes dans le nord du Mali, dont 2 chefs importants, d'Ansardine et d'Acmi. Ils seraient à l'origine de l'assassinat de 3 de nos compatriotes, Michel Germano et les journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Si vous venez de loin, vous me regarderez. Sinon, je ne verrai que de hautes paupières. Venez-vous de si loin ?
Ces images ont été prises mercredi par un routier à l'entrée de Calais et ont déjà fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des migrants profitant des ralentissements pour monter dans les camions en partance vers l'Angleterre. En 24 heures, 1300 d'entre eux tenteront leur chance.
Je suis contre l'instauration de quotas de migrants. Ceci n'a jamais correspondu aux propositions françaises.
Accourez, cavaliers qui traversaient les mers. Je n'ai qu'un toit de ciel, vous aurez de la place.
Le mur doit être construit là, pour délimiter le terrain de la future aire d'accueil.
Qui croit fermer ma chambre ? À place entre ces murs.
Objectif affiché par les autorités, assurer l'intimité et la sécurité des voisins belges. Beaucoup craignaient que l'aire d'accueil pour gens du voyage se transforme au final en camp de Rome, un voisinage qui faisait peur.
À place entre ces murs, avez-vous traversé les siècles ou les mers ?
Environ 7000 boat people originaires de Birmanie et du Bangladesh seraient encore en perdition sur la mer d'Andaman.
Venez-vous de si loin ?
Voyageurs. Étonnant.
C'est le poète Jules Supervielle qui pose la question « Venez-vous de si loin, Michel Lebris ?» Quand vous avez créé, en 1990, il y a donc 25 ans maintenant, le festival Étonnant Voyageurs, vous aviez peur, j'ai lu ça quelque part, vous aviez peur de la routine. Elle n'est pas venue.
J'avais dit au maire, 10 ans, ça suffit, parce qu'après, on se répète, c'est plus que des rhumatismes, il vaut mieux savoir arrêter. Puis au bout de 10 ans, il m'a dit, alors, on arrête. Je lui ai dit, non, mais attendez, vous plaisantez, là, on démarre tout juste. C'était le moment où on avait décidé de se projeter dans le reste du monde, de multiplier les éditions du festival à l'étranger, qui ont tant apporté aussi à Saint-Malo.
Mais la World Alliance que vous avez créée, c'est 8 grands festivals littéraires qui sont en résonance les uns avec les autres.
Ça, c'était la 20e année. Parce que du coup, j'avais dit au maire, non, 20 ans, mais alors après, non, quand même. Au bout de 20 ans, il dit, bon, alors, on est juste au début. C'était le moment où le Festival de Toronto et d'Édimbourg venaient ici me voir pour proposer la création de ce réseau des plus grands festivals littéraires du monde. Et on était le seul festival de langue française qu'ils retenaient. Comme ça, c'est pas si évident que des anglo-saxons viennent trouver des Français hein, quand il s'agit de culture. Donc on était très flattés. C'était aussi le fait... vous savez, quand vous invitez des écrivains de 40, 50 pays différents chaque année, au bout d'un moment, ça se sait à l'étranger ce qu'est ce festival. Donc c'était un signe de reconnaissance. Et encore hier, on discutait avec Nick Barley d'Édimbourg de tas de projets qu'on a pour les années qui viennent.
Mais ce n'est pas seulement ça. Il se passe quelque chose d'absolument passionnant en 25 ans. C'est petit à petit... qui se trame comme un beau tissu qu'on fabrique, comme ça, une autre pensée du monde. Parce que... Que les Anglais viennent discuter avec les Français, c'est déjà, comme vous dites, une aventure humaine. Mais ça marche, ça fonctionne et ça produit quelque chose.
Ben, je crois que les intuitions de départ, qui m'ont tellement été reprochées par le milieu, d'ailleurs, à l'époque, qui regardait le festival d'un mauvais œil. On ne va pas se raconter l'histoire, je ne vais pas raconter le détail, mais je n'ai pas été le bienvenu quand j'ai lancé ce... C'était un peu contre le milieu, contre... la vogue de littérature formaliste, nombrilesque, etc., de cette idée de littérature monde, quoi. C'est, je crois qu'en 25 ans, c'est les idées qui... C'est pour ça que quand on a sorti un album sur les 25 ans du festival, j'ai tenu à le structurer aussi par les idées-forces en datant les textes qui ont été publiés pour montrer que ces textes-là étaient déjà à l'origine. Il y a 25 ans, je disais quoi ? C'est qu'un monde était en train de disparaître, qu'un autre apparaissait, et que ce sont les artistes qui donnent à voir.
Alors, ça, c'est un point important. C'est d'ailleurs, c'était l'objet d'un précédent festival Étonnant Voyageur, où vous posiez la question, au fond, qui sont les narrateurs du monde ? Et la réponse, qui au passage, d'ailleurs, était un peu dérangeante pour des journalistes, vous disiez que les narrateurs du monde, ce sont les romanciers. Ce sont les poètes, plus que tous les autres.
Mais quand j'étais étudiant dans les années 60, en même temps, je dirigeais une revue de free jazz, j'étais passionné de contre-culture américaine, mais bon, tout ce qu'on écoutait, lisait Philippe K. Dick en science-fiction, etc., n'avait strictement aucun droit de citer dans un journal aussi respectable que Le Monde. Vraiment. Le jazz s'arrêtait, encore quand on arrivait à John Coltrane, on disait oui, mais pas à la fin, quand il joue du free, quand même, ça, c'est plus de la musique, etc. Il valait mieux écouter Bob Dylan dans les années 60 pour savoir ce qui agitait la jeunesse du monde que lire les éditorialistes du monde, à commencer par ce brave homme qui était Vincent Pontet, qui écrivait La France s'ennuie quelques semaines avant l'explosion du mois de mai. Il l'aurait écouté, il aurait su ce qui allait éclater. Et c'est la même chose maintenant. Un monde est en train a déjà basculé. La différence par rapport à il y a 25 ans, c'est que ce que l'on annonçait comme inéluctable, disait, ça va nous retourner toutes nos certitudes. L'histoire retourne tout cela comme un gant, comme ça. Nous ramène, d'ailleurs, aux questions fondamentales. Regardez maintenant les interrogations sur la République, la laïcité, etc. Mona Ouzouf était remarquable là-dessus hier, qui disait, par exemple, la République pure et dure que l'on brandit comme ça n'a jamais existé, par exemple. Elle montrait très bien comment elle avait composé avec la diversité, avec la question de la culture, que par ailleurs, on rejetait de l'espace public, etc., qui faisait retour aujourd'hui dans l'espace de l'espace privé, dans l'espace public, etc. On est devant un bouleversement complet de nos catégories mentales.
Oui, mais vous citez Mona Ouzouf, et c'est très bien que vous le fassiez maintenant, parce que je sais, pour l'avoir lu, sous votre plume, que vous espérez dans les femmes. Oui. Sauf que, dans le temps que nous vivons, qui est aussi celui de la violence, c'est d'abord et surtout aux femmes que la violence est faite. Mais comment, c'est, dès lors, espérer dans les femmes au moment où elles sont peut-être dans l'une des pires situations qu'elles puissent connaître. Mais... Je pense à Boko Haram, je pense à ce qui se passe au Proche-Orient et ailleurs.
Mais vous croyez que c'est un hasard si les femmes sont les cibles de tous les mouvements totalitaires dans le monde aujourd'hui. C'est absolument sidérant. On a monté un festival à partir de 2000 en Afrique, à Bamako. On l'a bien vu. Dans les rencontres, les femmes étaient nombreuses, de plus en plus nombreuses, prenaient de plus en plus fortement la parole, nous alertaient, parce qu'on a monté le festival à Tombouctou, à Kidal, à Kita. Quand je pense à ce que sont ces villes, aux amis qu'on a là-bas, etc., c'est absolument affolant. Ce qu'elles nous disent année après année, c'était la montée de l'islam. Et j'allais discuter avec un ambassadeur à l'époque qui me disait, non mais attendez, vous rêvez, l'islam ne prendra jamais au Mali, il y a un vieux fond animiste ici. Je lui dis, mais est-ce que vous sortez des fois de votre ambassade à Ségou, qui est un peu loin, mais la porte à côté, quand même, dans ce pays, il n'y a plus que des brochures imprimées en Arabie Saoudite. On a fait venir 25 000 livres grâce aux espaces Leclerc, d'ailleurs, à l'époque, pour les 10 villes où on allait, ce qui faisait quand même 2500 bouquins par ville pour lutter contre ça. Ils n'ont même pas été foutus de former les bibliothécaires. C'était pas trop leur demander, pourtant, à l'ambassade, à l'époque. C'est un pays animiste, non, mais... Il suffisait d'écouter les femmes pour ce qu'elles disaient, je veux dire, parce qu'elles expliquaient en plus très bien comment que ça se passait.
Mais ce que vous venez de faire à l'instant, Michel Laurie, c'est intéressant parce que vous venez de nous embarquer directement sur le continent africain. Et vous, Sanjal Subramanayam, l'historien que vous êtes, et je vais revenir sur la notion d'histoire globale, vous dites qu'il faut absolument aujourd'hui élargir les horizons géographiques pour penser les choses différemment. Pourquoi faut-il à ce point élargir ?
Il y a plusieurs réponses possibles. Il y a une raison qui est par exemple donnée par mon ami Serge Brzezinski dans un livre qu'il vient de publier pour l'histoire pourquoi faire ou quelque chose de ce genre, où il nous dit en effet qu'aujourd'hui les jeunes viennent d'horizons assez variés et différents, même si on est en France. Et donc, du coup, raconter l'histoire telle qu'on l'a racontée au 19e ou au début 20e, ça va plus parce que ça n'a aucun rapport avec leur trajectoire personnelle et avec leurs propres histoires. Mais en même temps, je dis aussi que c'est pas seulement une question de répondre à une attente de ce genre. C'est aussi parce que la réalité, c'est que l'histoire française, ça n'a jamais été hexagonale. À l'époque, en 1989, quand on faisait les choses pour le deuxième centenaire, à l'époque, j'avais discuté avec les gens qui entouraient plus ou moins François Furet à l'époque. Parce que ce qu'on racontait sur la Révolution française, c'était comme si la Révolution française était un produit purement français que par la suite a été exporté dans le monde entier. Aujourd'hui, on a des livres pour démontrer que, en fait, la Révolution française, ça a été produit dans le cadre d'une interaction avec le monde atlantique pour commencer, mais aussi avec le monde vu plus large, déjà remontant au XVIe siècle. Les gens d'ici, de Saint-Malo, de Dieppe, de Fécamp, avaient des rapports avec l'océan Indien.
Mais alors ça veut dire, à vous écouter, que l'histoire a toujours été globale. Comment se fait-il que nous ayons refusé de la considérer comme telle ?
Non, l'histoire n'a... Et c'est pas vrai que ça a toujours été global. Il y a aussi une histoire à raconter pour ça. C'est-à-dire, bien sûr, l'histoire du XIIe siècle n'est pas globale dans le même sens que l'histoire du XVIe siècle.
Bien entendu.
Hein, vous voyez, la circumnavigation du monde au début du XVIe siècle vaut quelque chose. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu refuser ça? C'est parce que je pense qu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle... on a en fait accepté un certain nombre de ces données, même dans le cadre de l'histoire impériale. Mais par la suite, je pense que le problème s'est posé au 19e, quand il y a eu la montée d'un certain cadre qui était le cadre de l'histoire nationale. Et ce cadre a donc voulu remplacer les types d'histoire qui existaient auparavant. Et donc, maintenant, en quelque sorte, on est en train de revenir sur un passé qui existait de l'histoire avant l'histoire nationale.
Mais en considérant l'histoire comme vous le faites, et vous êtes considéré comme un pionnier de cette lecture-là de l'histoire, vous est-il possible de répondre à une question aussi ouverte que celle engagée par le 25e Festival des Étonnants Voyageurs, c'est-à-dire... Où allons-nous ? Est-ce qu'on peut répondre à une question de cette nature aujourd'hui ?
On peut répondre, est-ce qu'on peut répondre bien ? C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est pas essentiellement le travail de l'historien de devenir futurologue. Mmh. C'est pas notre, l'essentiel de notre métier. On a déjà du mal à comprendre le passé. Alors, commencer à raconter qu'on peut vous dire. Alors, les économistes qui sont beaucoup mieux payés que nous. Alors, eux, ils n'arrivent même pas à nous raconter quel serait l'état de l'économie dans 10 ans ou 15 ans.
Oui. Mais ils se trompent tout le temps.
Non, mais je pense que souvent, les économistes racontent ce qu'ils ont envie de raconter pour que l'économie reste l'économie. Hein, oui. Il y a des constructions qui se font aussi.
Oui, mais voilà. Donc, moi, personnellement, et je pense que la plupart des historiens n'auront pas forcément envie de vous raconter, de prendre le travail de l'écrivain de science-fiction et raconter ce que serait le monde dans 50 ans.
Non. Bien sûr. Mais Michel Lebris, quand vous dites, quand vous posez la question où allons-nous, vous ne vous mettez évidemment pas dans la peau d'un futurologue.
Ah non, pas du tout. Ce ne sont pas les réponses. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui fournissent les réponses.
Oui.
Il y a un philosophe, grand logicien, Karl Popper, qui a démontré qu'on ne peut pas à la fois prétendre apporter des réponses et continuer à poser des questions. Si celui qui fournit les réponses ne peut plus poser les questions. Les pensées en système, on en a suffisamment souffert, on les a traversées dans les époques des idéologies triomphantes. Vous savez, ces machines à prière qui fournissent des réponses sur tout, à la condition, bien sûr, de ne plus se poser de questions sur rien. Et c'était tellement pratique, le monde était facile à comprendre à ce moment-là. Mais on voyait rien. Non, c'est pas ça qui est intéressant. C'est d'ouvrir des espaces, de poser des questions. L'artiste est celui qui a un rapport d'étrangeté au monde, d'étonnement, qui voit différemment le monde, qui nous aide à nous étonner et à être sensible à l'extrême diversité du monde. Un poète, c'est quelqu'un qui ramène chacun à l'étrangeté d'autrui et à sa propre étrangeté. Si je vous regarde dans est-ce que quelqu'un qui regarde quelqu'un dans les yeux, pense spontanément comme ça, que dans le regard qui me fait face, il y a des mondes dans lesquels je n'entrerai jamais. C'est pourtant le mystère fondamental de l'être humain, c'est l'entrée en humanité, c'est l'acceptation de l'altérité
mais
de l'autre.
Mais c'est le pari formidable de l'autre aussi,
oui,
c'est ça qui est magnifique.
Le poème, c'est à ça qu'il vaut. Un tableau, c'est à ça qui est. Les tableaux vous regardent, vous réapprennent ce que c'est qu'un regard humain, l'immensité qu'il y a dans chaque personne.
C'est magnifique ce que vous dites, sauf que Sanjay Subramanian, la bataille et rude. Au passage, vous venez de publier Leçons indiennes, itinéraire d'un historien qui vient de paraître aux éditions Alma. Pourquoi la bataille est rude ? Parce que vous nous dites qu'il faut élargir le champ de la pensée, élargir les horizons géographiques. Et puis, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Tenez, parlons de ce qui se passe chez vous en Inde, où on oppose l'Inde classique, un peu comme un modèle, à l'Inde musulmane, où on clive, entre les bons et les méchants. Qu'est-ce qu'on fait là ? On n'élargit plus, on rétrécit.
Oui, et c'est très inquiétant. Mais alors là, moi, je dirais que il y a deux sortes de travail. Il y a le travail, disons, d'artiste, le travail de l'historien n'est pas un travail d'artiste. C'est un travail d'artisan. Et nous sommes en fait des artisans, et nous avons nos outils, les langues, les archives, et nous avons donc envie de faire des choses qui sont extrêmement terre à terre. Mais alors, bien sûr, ça convient pas forcément aux idéologues qui n'ont pas vraiment envie de faire face aux exigences empiriques des historiens. Et voilà. Mais donc, je pense que c'est bien d'avoir des visionnaires, des rêveurs, mais aussi parfois le quotidien est aussi fait par les artisans.
Bien sûr. Mais Aurore, artiste et artisan, ces deux mots finalement sont-ils si éloignés que ça ? Est-ce qu'un artisan, c'est pas aussi possiblement un artiste ?
Mais si, bien entendu, puisque la racine est la même. Néanmoins, la terminaison en ANT, elle indique le faire, la fabrication, l'entrain de se faire. Mais en fait, c'est très difficile de faire la différence entre les deux mots. Je me suis bégayée d'ailleurs, qui suis-je pour la faire ? Je suis sûre qu'il y a des artisans qui sont des artistes et des artistes qui sont des artisans.
Vous avez donné un exemple que je trouve vraiment très intéressant, Sanjay Subramanian, à propos de l'ouverture et jusqu'où la pousser. Dans le temps, par exemple, que nous vivons aujourd'hui, vous parlez d'un sultan ottoman qui s'appelait Selim. Et ce Selim, un jour, il a passé un coup de fil, sauf que le téléphone n'existait pas, à Charles IX, juste après la Saint-Barthélemy, pour lui dire en gros qu'il n'avait rien compris, quoi.
Oui, voilà, c'est quelque chose qu'elle racontait dans le récit de voyage d'un voyageur français qui avait connu les ambassadeurs ottomans venus en France, et par la suite, lui, il est allé voyager en Moyen-Orient. Il était huguenot, comme il s'avérait, donc vous voyez qu'il avait, c'était un intéressé. Et donc, il a posé la question, et les Ottomans ont répondu qu'ils avaient, eux, reçu les Juifs de l'Espagne, ils avaient reçu toutes sortes d'anabaptistes, des gens des sectes les plus réprimées en Europe à l'époque. Bien sûr, les Ottomans avaient toujours un petit problème avec les chiites, il faut le dire.
Mais qui n'est d'ailleurs toujours pas résolu.
Voilà. Mais pour le reste, en fait, ils ont essayé de démontrer que là, chez eux, il y avait une espèce d'ouverture et donc c'était vraiment, si vous voulez, au XVIe siècle, si on cherchait une terre d'asile, c'était l'Empire ottoman, pas la France et pas l'Espagne.
Vous savez pourquoi vous êtes démoralisant, monsieur ? Vous parlez 12 langues ?
Plus ou moins, oui.
Oh, pas, si vous voulez parler comme vous parlez le français, 12 langues. À 3 ans, vous en parliez déjà 3, paraît-il, c'est vrai ?
Non, à 5 ans, oui.
À 5 ans, pardon, je vous prie de m'excuser. Comme quoi, vous voyez, le journalisme, c'est aussi une exigence sur les dates et le temps qui passe. Teresa Crémisi.
Moi, c'est le contraire. À 5 ans, j'en parlais 5 et maintenant, j'en parle 2 bien et 2 mal. Voilà. Donc,
oui, voyez, ça, je demande.
J'ai fait le contraire.
Je demande à voir ce que vous faites du mal quand
j'ai
vous
tout
parlez.
Perdu. Oui.
Alors d'abord, je le disais tout à l'heure, ce roman, on y reviendra, la Triomphante. Mais ce rôle que vous avez tenu et que vous tenez encore pour quelques semaines à la tête de Flammarion depuis 11 ans maintenant, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Vous avez vu aussi, vous, changer le monde autour de vous, et vous entendiez à l'instant Michel Lebris dire l'importance qu'il accorde aux femmes aujourd'hui et la place que tiennent les femmes dans la mondialisation. Vous recevez cette réflexion ?
Mais écoutez, bien sûr, Michel Lebris a dit deux choses. Les femmes sont à la fois piétinées dans une grande partie du monde. Elles sont l'espoir de cette même partie du monde. Et il a dit aussi que ce sont les artistes qui voient, ce sont les poètes qui voient. Je ne peux qu'adhérer à ces deux vérités. Donc,
Mais est-ce que vous sentez, et là encore à la tête d'un très grand éditeur...
Les femmes, mais bien sûr.
Mais pas que les femmes, pas que les femmes. Est-ce que les femmes peuvent nous dire, peut-être mieux que nous saurions nous, les hommes, le faire, et sans vouloir faire de distinguo qui serait artificiel ? Mais à quel point le monde a changé autour de nous, à quel point il faut penser différemment les choses.
Alors là, écoutez, je serais plus nuancée. À mon avis, les femmes ont intégré petit à petit les postes de pouvoir et elles dirigent plus ou moins comme les hommes, avec quelques bémols. Je ne vois pas de très grande différence quand une femme accède au pouvoir à propos de l'exercice qu'elle en fait. En revanche... la vitalité et l'envie de progresser, d'obtenir, de faire partie d'un mouvement, elle est très très forte. Et j'ai embauché dans ma vie des centaines de jeunes femmes. Je dois dire que j'en suis fière.
Mais il y a dans La Triomphante, ce roman que vous signez, quelques lignes où à un moment donné, la femme va annoncer à sa hiérarchie qu'elle s'en va. Et la façon dont vous l'écrivez montre à quel point c'est toujours un rapport de force.
Mais c'est toujours un rapport de force entre quelqu'un qui est patron et quelqu'un qui ne l'est pas. Si ce patron est une femme, le rapport de force est le même. C'est embêtant de le dire parce qu'on voudrait que ce soit pas la même chose, mais c'est le même. Une femme patronne peut être aussi dure, perverse, sournoise qu'un homme patron. Hein. Ça, c'est la même, c'est fait pareil. Je regrette de le dire, mais c'est comme ça.
Et s'agissant des narrateurs du monde, vous êtes celle qui avait publié Michel Houellebecq.
Ouais.
Qui signe Soumission,
ouais.
Lequel roman en est à pas loin de 600 000 exemplaires.
C'est exact.
Est-ce que Houellebecq aujourd'hui est un narrateur du monde et dérangeant d'ailleurs, en tout cas pour certains, pas pour tous, mais pour certains.
Écoutez, ça ne vous étonnera pas. Je pense que c'est un très grand écrivain et qu'il possède des grands écrivains cette capacité à travers des détails de voir le monde et peut-être lui avec une petite anticipation. Son regard est acharné sur les détails, ce qui est vrai aussi, par exemple, de Modiano. Et le détail, ensuite, parle. à la différence de Modiano et d'autres, il appartient à une catégorie française, une lignée française qui descend de Balzac, c'est-à-dire des romans où le naturalisme est important et on fait vivre des personnages, des situations, et voilà. Il ajoute toujours une espèce de glissement vers l'anticipation qui donne un doute sur le passé. Et ça, c'est très habile, et c'est très spontané, c'est très bien maîtrisé. Voilà.
Vous avez entendu à quel point l'historien Sanjay Subramanayam refuse d'être un futurologue.
Et il a bien raison.
Et on le comprend facilement.
Il a bien raison.
Néanmoins, est-ce qu'un Houellebecq, à sa façon, dans son dernier roman, Soumission, répond au fond à la question de Michel Lebris, qui est « Où allons-nous ?» On a l'impression que c'est comme le petit poussé. Comme s'il y avait des petits cailloux blancs qui sont jetés ici et là. Tout n'est pas dit, mais peut-être qu'une direction se dessine. Et
Michel Houellebecq me fait penser à ce personnage d'Astérix dont le nom m'échappe. C'est celui où qu'il passe, se crée la zizanie. Voilà. Dès qu'il arrive quelque part, les ferments qu'il jette provoquent adhésion, rébellion, discussion, bataille verbale. C'est un semeur de troubles.
Mais ça, c'est Michel Lebris, c'est un peu une histoire de la dialectique. Hein, il faut mettre le bazar pour qu'il se passe quelque chose, au fond.
Oui, le bazar, vous savez, il se crée tout seul. C'est plutôt de faire advenir une forme, un ordre dans le... Les filles de mon équipe protestent à chaque fois que je dis que je développe une théorie très fine de l'autostructuration du chaos, des vertus autostructurantes du chaos, ce qui est le principe d'organisation du festival, sauf que c'est elles qui ont à le gérer. Et des fois, elle proteste.
Il y a un garçon qui s'appelle Pierre-Yves Houdéillé qui travaille sur le langage des robots et qui participe à la fabrication d'un langage chez les robots qui parle, lui, de l'auto-organisation des systèmes.
Oui.
Et qu'on la retrouve aussi dans la nature.
Ben, vous voyez.
Le chaos, c'est de l'auto-organisation, vous pensez ?
On n'allait pas jusque-là, quand même.
Non,
Michel.
Mais... C'est pas ça. Ce qui est fondamental...
Théoriser le
créer,
chaos...
C'est pas théoriser. Ce qui est fondamental, c'est d'accepter le chaos.
Ouais.
De se laisser traverser par cette puissance-là. On crée à partir du chaos. Faire advenir une forme dans le chaos, ça, c'est créer une œuvre. Mais un festival à créer, si vous n'acceptez pas le chaos, si vous n'êtes pas prêt à le défaire pour le refaire le lendemain parce que tout d'un coup, une idée vous a traversé l'esprit, il faut le sentir comme une matière vivante. Et moi, frère, ça donne le festival ici. Si j'organisais tout, parce que le Centre national du livre, par exemple, il demande le plan, la structure du festival quasiment dans l'automne. Ça bouillonne, ça bouge, ça se transforme jusqu'au dernier programme imprimé. Et un romancier se retrouve avec le même problème. Il faut entendre. Moi, je suis né en bord de mer, et donc je suis habité par le grondement de la mer l'hiver. Je crois que je suis un enfant de ce grondement là. Je crois que c'est ça, à partir de ça, qu'on crée.
Mais peut-être qu'on aura une belle surprise tout à l'heure, parce que l'astrophysicien et poète, très important. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est astrophysicien et poète, et on verra que le lien est évident entre l'une et l'autre chose. Il nous dira peut-être tout à l'heure qu'il faut parler de l'esthétique du chaos.
Oui.
Et que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
J'entendais, je ne sais plus qui, dans une émission de radio, qui s'interrogeait, c'est est-ce qu'il y a un sens à la création au monde. Mais je ne sais pas s'il y a un sens, mais le monde a des formes, et qui sont extraordinairement belles. Ça n'apporte pas de réponse, mais ça apporte une sensibilité au mystère du monde, par contre.
Aurore, je voyais vouloir réagir sur plusieurs mots, peut-être, qu'on a utilisés depuis le début de l'émission.
En parlant de la forme du monde, justement, cette idée de globalité que vous avez évoquée tout à l'heure, monsieur Subramanayam.
Non, je n'ai pas utilisé le mot globalité.
Global. Histoire globale. C'est Stéphane qui a parlé d'histoire globale. Et puis vous, Thérèse.
Et voilà, c'est moi qui prends les coups.
Oui, c'est lui. C'est toujours de sa faute, hein, il faut le dire. Thérèse Crémisi, vous nous disiez qu'un écrivain comme Houellebecq ou comme Modiano, voyez le monde à travers les détails. Et en fait, en ce mot globe, global, il y a une forme qui est celle de la sphère. Et la sphère a cette spécificité que chaque point à sa périphérie est à égale distance du centre. Donc il n'y a plus de hiérarchie, en quelque sorte. On envisage chaque point, même le plus infime, comme faisant partie d'un tout et comme étant... à égale importance égale par rapport au centre de la sphère et du globe.
Ça vous convient, Sanjay Subramaniam, cette définition du globe et de...
Absolument pas, je le sens.
Oui, non, mais pas, le problème, c'est que, oui, peut-être au niveau étymologique, mais vous voyez que l'histoire globale, ça ne se fait pas sans rapport de force.
Mais bien sûr.
Et ça ne se fait pas sans hiérarchie. Alors, est-ce que ce sont des hiérarchies qu'on est obligé d'accepter ou de prendre comme idéologie pour nous-mêmes? Non. Mais par contre, est-ce qu'il y a toujours eu des hiérarchies dans l'histoire globale? Évidemment, oui.
Mais est-ce que l'histoire, c'est une histoire d'abord du désordre? Parce que je suis très frappé de ce que nous disait Michel Lebris et de ce que nous dira tout à l'heure Jean-Pierre Luminet, de l'enjeu de la beauté, de l'élégance, notamment dans des formules mathématiques, d'une forme d'esthétique qui rejoindrait... peut-être une certaine définition de l'harmonie. Est-ce que l'histoire, ce serait le contraire de ça, forcément? Car en effet, on y voit toujours l'enjeu de la violence, de la force, de la conquête, de la domination. Qu'est-ce que c'est que l'histoire?
Alors c'est vrai que pendant un certain temps, on connaît qu'à partir de Roland Barthes ou à partir de Paul Ricoeur...
Vous ne dites pas Roland Barthès, vous?
Non.
Non, mais...
non. J'ai dit, bien sûr, Zinedine Zidane.
On a eu un président de la République qui... Oui, oui, voilà. Ouais.
Mais par contre, le problème, c'est que là, on a beaucoup insisté, par exemple, sur le fait... que l'histoire, en fait, c'est calqué sur les formes de la fiction. L'histoire, c'est en fait plus ou moins le même genre de en tant qu'écriture, un peu comme le roman, etc. Et moi, je pense que quelqu'un comme Carlo Ginzburg a tout à fait raison quand il rejette ça. Il rejette ça parce que, en réalité, il faut distinguer le travail de l'historien, le travail du romancier, pas seulement dans la façon de travailler, mais aussi dans les résultats. On ne cherche pas les mêmes effets esthétiques du tout. Hein? Et on est aussi loin, par exemple, des mathématiciens purs. Parce que les mathématiciens purs, j'ai un certain nombre d'amis qui sont des mathématiciens, qui font par exemple la géométrie algébraique ou des choses comme ça. Eux, ils recherchent l'élégance dans les solutions. Ils recherchent un certain type d'esthétique minimaliste. Le rasoir d'Occam, par exemple, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Pour l'historien, c'est pas si important que ça. On n'est pas travaillé par les mêmes considérations esthétiques. Et donc, c'est pour cela que, par exemple, dans les années 80, on a essayé de nous expliquer, à nous, historiens, qu'il fallait jouer avec, par exemple, Queneau comme modèle pour écrire l'histoire. Ça marche absolument pas.
Tant mieux, oui. Tant mieux. Pierre Bordage, écrivain de science-fiction et auteur d'un roman qui vient de paraître, qui a pour titre « Les Dames Blanches » aux éditions La Talente. Où allons-nous ? C'est une question géniale pour un historien de science-fiction, mais est-ce qu'il peut lui aussi ne pas répondre à cette question?
Il va surtout pas répondre à cette question. J'ai eu plein de... Il y a tellement de choses qui sont passées dans le débat qu'il y aurait tellement de choses à dire. Enfin, il faudrait probablement dans 3 jours de colloque universitaire pour commencer à débattre de tout ça.
Moi, je suis pas contre, hein, mais le problème, après, c'est la place à l'antenne.
C'est ça. Donc, pourquoi devenir écrivain de science-fiction? À quoi ça sert la science-fiction? Où allons-nous? Nous ne savons strictement rien. Aucun auteur de science-fiction ne peut prétendre être un futurologue, parce que le futur, par définition, il n'est pas écrit. Donc si nous, on l'écrit, c'est pour d'autres raisons. Les raisons d'écrire le futur, en quelque sorte, elles sont de 3 ordres, à mon avis. Il y a 3 intérêts, finalement. Premièrement, proposer un étonnant voyage. Là, on est bien dans les étonnants voyageurs comme à Saint-Malo, c'est-à-dire qu'on va avoir un voyage imaginaire pur, sur un espace-temps qui n'existe pas. Ça, c'est le premier intérêt, parce qu'il y a l'intérêt du vertige. Ça crée une sorte de vertige pour le lecteur, qui d'un seul coup se trouve transporté dans l'ailleurs. Paradoxalement, et c'est la deuxième qualité du genre, le fait de se décaler vers le futur dans l'espace-temps permet de mieux appréhender le présent. Donc c'est une littérature du présent.
Mais juste au passage, science-fiction, ça veut dire qu'il y a et de la science et de la fiction?
C'est le présupposé. Enfin, c'est pareil, il nous faudrait 3 jours pour débattre du sujet. Je crois qu'on les a pas, parce que chaque auteur de science-fiction a sa propre définition du genre. Moi, j'arrive du milieu littéraire, donc je ne suis pas un scientifique. J'essaie d'incorporer la science dans le genre, parce que, évidemment, c'est une sorte de pacte que l'on passe avec le lecteur en disant tout ce qui va toucher la science connue, on va être tenu de le respecter. Donc j'essaie, par exemple l'astrophysique, de tenir compte des dernières découvertes et tout ça, enfin d'être le plus proche possible de la réalité. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, si je voulais parler de science pure, par exemple, si je voulais décrire une intelligence artificielle, je ferais 0110011 et ça n'intéresserait pas grand monde, quoi. C'est un langage d'humain qui s'adresse à des humains. Et donc la science-fiction parle de notre présent. C'est-à-dire qu'elle déterre les mouvements en germe dans le présent pour les projeter avec un effet loop, pour inciter les gens à réfléchir.
Alors on va réfléchir avec vous dans un instant, mais d'abord Aurore, Théo,
Dieu.
Le prénom Théo, ça vous dit quoi vous?
Moi, ça me dit Dieu.
Ça vous dit Dieu.
Oui.
Alors il y a donc dans votre roman un petit garçon qui s'appelle Théo, oui. Et ce petit garçon, tout d'un coup, il ordonne à la matière de rendre les armes inopérantes.
Ça, c'est le roman qui s'appelle Le jour où la guerre s'arrête.
Oui, non, mais enfin, c'est vous qui l'avez écrit.
Oui.
Mais là, j'en viens à votre rapport à l'imaginaire. Donc voilà Théo, Dieu, qui demande à la matière de rendre les armes inopérantes. Et la matière lui dit, c'est pas idiot, donne-moi 7 jours. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose.
Hein. Alors ce projet-là, qui n'est pas un projet de science-fiction, qui est plutôt à classer du côté du conte philosophique, c'était... pour moi, l'idée de porter un regard entièrement neuf sur le monde, parce que nous sommes tous victimes de nos conditionnements. Et là, on parlait tout à l'heure du monde musulman, de l'espèce de peur que ça donne, et je pense que on peut renverser la perspective, et ça, ce que j'ai travaillé dans les Dames Blanches, c'est que si vous changez le conditionnement, vous changez exactement le comportement des gens, et que vous pourriez, nous occidentaux qui... critiquons le monde musulman pour sa violence, nous, dans les Dames Blanches, ce monde occidental va jusqu'à sacrifier ses propres enfants pour combattre un ennemi mystérieux et invincible.
Mais vous savez, dans 3D, souvent, et sans toujours ne pouvoir y arriver, on a posé la question des racines, et notamment, s'agissant de l'histoire, des racines des événements que nous vivons. Il faut parfois descendre très profond pour aller trouver l'origine d'un phénomène. Par exemple, on parlait de Daesh, et il fallait remonter après la guerre de 14 aux accords Saïs-Picot pour comprendre ce qui se passait en Syrie et ailleurs au Proche-Orient. Sinon, on risque de passer à côté de la réalité. Vous, quand vous racontez l'histoire de Théo qui ordonne à la matière de rendre les armes inopérantes, vous vous appuyez sur un socle immémorial qui remonte à tous les grands textes, et oui, pas simplement la Bible.
Et ça, c'est le troisième intérêt du genre. Merci de me poser la question, parce que c'est le troisième intérêt du genre, qui est l'interrogation philosophique, l'interrogation qui traverse le temps, qui a été posée par les premières mythologies, les premiers textes, par exemple sur l'immortalité, sur le rapport à la matière. Ça existe depuis que l'humanité est en âge de conscience. Et donc, la science-fiction permet de rejoindre ces interrogations-là avec un socle différent qu'est le socle du présent. Mais oui, on reprend ces grandes interrogations philosophiques qui traverse l'humanité depuis la nuit des temps.
Teresa Crémisi, il y a quelque chose de très émouvant, parce que les romanciers, ce sont ou des fous, ou des grands initiés. Mais ce sont des gens qui peuvent parler à un arbre et nous raconter que l'arbre leur a répondu quelque chose.
C'est vrai. Les romanciers sont des veilleurs, des regardeurs du monde. Et donc, ils décrivent. Je vous parlais de très grands. Dès qu'on prend la plume et qu'on décrit, on fait vivre des choses et on les regarde autrement. Et le talent réside en ayant en soi, en transmettant une forme d'étrangeté qui donne un petit frisson et qui permet de regarder, de comprendre et de suivre un récit.
Mais qu'est-ce que ça a changé chez vous pendant 11 ans chez Flammarion et avant chez Garzanti, on dit comment, Garzanti?
Alors, j'ai vécu 20 d'années chez Garzanti en Italie.
C'est là que Gallimard est venu vous chercher pour vous amener à Flammarion.
Une quinzaine d'années chez Gallimard et une dizaine, vous voyez, je suis très vieille.
En quoi ça, vivre avec ces gens et ces femmes, ces hommes et ces femmes qui sont, encore une fois, tellement en dehors du cercle, qu'est-ce que ça change?
Être éditeur, c'est beaucoup de métiers à la fois. Alors, je suis devenue un entrepreneur d'édition, mais j'ai fait un peu tous les métiers. Et c'est beaucoup de métiers qui se superposent. C'est un métier très difficile, qui demande de l'adaptation, puisque vous êtes à la fois au service des forces de l'esprit et du commerce. Et donc, vous êtes au milieu de forces qui se déchirent. Et c'est un très, très beau métier.
Qui se déchirent ou qui se tissent? Parce que vous, Pierre Bordage, vous parlez, et vous avez utilisé ces mots, vous parlez de la toile universelle. Oui, et j'imagine que vous ne pensez pas forcément à Internet en disant ça.
Non, je parle de la trame humaine.
Mais oui.
J'essaie d'illustrer cette parole du Christ qui disait « Ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. » Donc, c'est à l'ensemble qu'on le fait. Et donc, je pense que chacune de nos actions a une résonance dans la trame humaine. Et je travaille beaucoup mes livres là-dessus, c'est-à-dire notre responsabilité dans cette trame. C'est à nous qu'il revient, à chacun de nous qu'il revient de faire de notre monde quelque chose d'harmonieux, justement. Pas seulement se réduire à l'extrémisme contre l'autre, parce que c'est rejoindre son terrain, mais nous-mêmes, par une action ou par une recherche, explorer d'autres pistes pour amener une harmonie.
Mais l'harmonie, elle passe par le partage et l'ouverture, telle que la définissait très bien, je trouve, il y a quelques instants, Sanjal Subramanian.
Oui.
Lui-même, d'ailleurs, dit qu'au fond, vous l'avez écrit ça aussi, c'est très intéressant d'écrire un livre à plusieurs. Parce que tout à coup, ça va d'abord obliger à se remettre en cause soi-même et sa propre vision du monde, mais ça va produire quelque chose de supplémentaire. Ce qui rejoint d'ailleurs tout à fait la problématique des étonnants voyageurs depuis 25 ans.
Votre question, c'est quoi?
C'est se mettre ensemble, c'est partager, c'est s'ouvrir.
Ah oui,
oui, il y a des moments où je pose des questions qui sont un peu fermées. Oui.
Non, parce que j'ai écrit un livre partagé avec trois scientifiques qui s'appelle Exquise Planète chez Odile Jacob. Et c'était intéressant de travailler avec des scientifiques qui avaient une autre vision, un astrophysicien, un historien. Et moi, en tant qu'auteur de science-fiction, je me retrouvais à la fin du projet en train de créer une histoire à partir de tous les éléments qu'avaient posé ces scientifiques. Effectivement, c'est très très riche.
Mais Sanjay Subramanian, c'est pas difficile d'écrire à plusieurs et donc de penser à plusieurs?
C'est pas évident, c'est oui. Difficile. Mais en fait, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, les scientifiques font ça assez souvent. Et si vous regardez les revues scientifiques, la plupart des textes sont écrits à plusieurs mains, mais c'est parce qu'ils ont des conventions très bien définies, des conventions d'ailleurs très hiérarchiques. Si vous regardez, le premier auteur, c'est celui qui a eu l'argent pour le projet, le deuxième, c'est son esclave, puis il y a l'esclave de l'esclave, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Tandis que pour nous, en sciences humaines, c'est plus compliqué parce que c'est souvent lié avec des questions d'amitié. Mmh. L'aspect difficile, c'est de garder l'amitié à la fin du projet.
Ça, c'est toujours le plus difficile. Michel de Brissia, dans l'éditorial que vous signez en ouverture de cette plaquette qui commémore les 25 ans des étonnants voyageurs, vous parlez beaucoup de Mona Ouzouf et de ce qu'elle a dit d'une part des élites et de ce qu'elle appelle le reste. Le grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est précisément de supprimer ce clivage-là. Et de faire en sorte que, puisqu'on a parlé de l'autre, que cet autre-là soit plus présent, plus participatif et mieux reconnu.
Oui, c'est quelque chose d'utopique en même temps, mais nécessaire. Le reste, c'est plutôt mon expression à moi. On est très proche dans la vision qu'on a de la République, de la laïcité, du rôle de la culture. On parlait souvent entre nous du tableau, vous savez, du serment des Horaces, où d'un côté, il y a le citoyen qui naît comme ça, tranchant comme la lame d'une épée dans un espace géométrique, plus d'arrière-monde, plus rien. Ça, c'est le citoyen, la République pure et dure. C'est un manifeste, ce tableau. Et puis, à droite, il y a un tas, là, comme ça, effondré, ce sont des femmes en pleurs. C'est tout ce que le citoyen rejette, c'est-à-dire les espaces intérieurs, la sensibilité. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est le retour de ce reste dans c'est l'espace privé. Et c'est l'espace privé qui fait retour dans l'espace public très, très fortement. Parce que quel est le rôle de la culture dans la création de l'être ensemble? Est-ce qu'on pense sérieusement qu'on crée de l'être ensemble à partir juste de ces soldats prêtant serment, c'est-à-dire du citoyen, comme ça, homme nouveau, recréé, neuf, oubliant ses origines, sa culture, son passé, etc. On ne crée pas de l'être ensemble uniquement par la loi. Elle est nécessaire. Mais on le crée aussi par la musique, les chants, la création artistique, etc. C'est de l'espace privé. Le créateur, il exprime ce qui est sa plus extrême singularité. Mais le mystère de l'œuvre d'art, c'est qu'elle crée de l'être ensemble en même temps. On critique le communautarisme, etc. Mais ceux qui ne se sentent pas de cette... quand on lui dit liberté, égalité, fraternité, il dit, ben oui, mais c'est pour les autres, parce que moi, je me sens à côté, ghettoisé, marginalisé, etc. Le repli est presque fatal sur sa communauté, sa culture, etc. Ce qui est capital, c'est d'instaurer maintenant le dialogue de ces cultures. Il y a une belle phrase de Salman Rushdie là-dessus. Il dit, pour redonner chair au social, il faut être capable d'instaurer d'inventer un espace où échanger nos douleurs respectives. Mmh. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Pour créer de l'être ensemble, c'est inventer cet espace, recréer cet espace où échanger nos douleurs respectives. C'est l'enjeu aujourd'hui en France, précisément, je veux dire.
C'est... Mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est de mesurer ici, avec le public, de mesurer à quel point la réception du travail des créateurs, des romanciers, des chercheurs en général, des poètes et de tous les autres, à quel point ce travail est reçu, oui, compris, apprécié, demandé. Et j'ai utilisé le mot exigence tout à l'heure. Oui. Je suis très frappé des commentaires, des conversations, oui, qu'on peut avoir avec celles et ceux qui se dirigent vers les auteurs ici.
Mais je suis blessé tous les jours parce que j'entends dans les médias, par ce cirque invraisemblable de donneurs de réponses, justement, qui vous expliquent ce que sera demain, qui font des prévisions démenties le lendemain, mais c'est le surlendemain, ils reviennent, ils en font d'autres. Ils ne sont jamais remis en cause. Ces fournisseurs comme ça de réponses qui courent de média en média, de la vision souvent que donnent les médias des gens, les débats, les formes dans lesquelles s'organisent les débats politiques, qui sont souvent misérables, agitant des concepts et des idées qui sont obsolètes, qui sont vieilles d'un siècle, les partisans de la théorie de la demande qui s'opposent, etc. Mais c'est des catégories mentales qui viennent de certaines de la crise de 1929. Est-ce que vous croyez sérieusement que... Non, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans qu'il y aura la théorie de la crise que nous vivons.
Et vous dites que vous ne mettez pas le bazar, vous ?
Mais non, mais...
Ah, quand même !
C'est pas ça, c'est que je trouve que c'est une insulte aux gens, mais la manière sûr. De ces non, débats sont conduits. Quand j'entends les gens ici, leur écoute, etc., ils sont prêts à... Ils sont largement en avance sur ces... L'écart est absolument énorme entre ce que l'on appelle les représentants, disons quelque part, de la société civile, la société civile en même temps, qui est infiniment plus généreuse, etc. Voilà, et ça me désespère d'une certaine manière, et quand ce festival, c'est aussi pour ne pas désespérer, et la réponse qu'apportent les gens ici, je finis épuisé, mais c'est comme si en même temps je chargeais mes accus sur, je me branche sur le public et je me dis il y a une intelligence collective des écrivains, du public, etc., que je trouve formidable. C'est une autre image de ce que peut être quand même la France, l'être ensemble, l'être humain. Enfin, le reste de l'année, disons.
Je vais faire de la science-fiction, moi aussi. Je suis convaincu que finalement, vous êtes vraiment... vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes un corsaire. Vous. et vous n'êtes pas ici par hasard.
Corsaire...
Non.
Pirate.
Je savais bien quand même que vous alliez jusque-là.
Bien. Pirate à la fin du 18e, les utopies pirates, protestantes, tout ça. Là, je me sentirais assez bien. Là,
longue vie aux étonnants voyageurs, cher Michel Lewis.
Merci.
Parce que c'est un magnifique festival que vous avez créé et qui continue et qui se développe de plus en plus. Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie de 3D, entre 13h30 et 14h, nous recevrons un merveilleux écrivain et poète haïtien, Lionel Trouillot, et puis Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, l'un des meilleurs au monde, l'un des grands théoriciens du trou noir et de l'univers chiffonné. Alors, si c'est pas de la poésie, qu'est-ce que c'est ? Donc, on les retrouve tout à l'heure. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette première partie de 3D. Dans un instant, le journal.
3D. Journal de Stéphane Paoli.
Avec la présence de Lionel Trouillot, écrivain, poète, et quel écrivain et quel poète haïtien. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Merci pour votre présence. Vous êtes entre autres auteur et création. Vous avez signé une anthologie poétique qui a pour titre « C'est avec main qu'on fait chanson » qui est paru aux éditions Le Temps des Cerises, là, très récemment, au début de ce mois de mai. Et également d'un recueil de poésie qui a pour titre « Le doux parfum des temps à venir » qui est paru, lui, aux éditions Actes Sud. À vos côtés, un autre poète qui est également astrophysicien. Y a-t-il une si grande différence entre l'un et l'autre, d'ailleurs ? Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous diriez ? Astrophysicien et poète ou poète et astrophysicien ? Dans quel ordre mettriez-vous les termes ?
Cela dépend des jours.
Ça dépend des jours.
Il y a des jours où on sent davantage pour être astrophysicien et d'autres où je suis plus dans le.
Voilà, mais l'un et l'autre se nourrissent et des réflexions et des créations.
Oui, à travers évidemment l'imaginaire dont j'imagine qu'on va parler.
Oui, absolument. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'un des spécialistes, sinon le spécialiste mondial des trous noirs. Auteur de nombreux essais, romans, recueils de poèmes. Un trou énorme dans le ciel est paru aux éditions Bruno Doucet. C'était très récemment, en 2014. Puis des recueils de poésie aussi, beaucoup, nombreux. Hein. On en parlera dans un instant. Lionel Trouillot, je suis content de vous revoir parce que je me souviens d'un entretien avec vous il n'y a pas si longtemps, ici, aux Étonnants Voyageurs. Et puis, il y a eu janvier 2010. Il y a eu le terrible, dévastateur tremblement de terre à Haïti. Et vous avez écrit quelque part, le pire n'était pas le séisme. Qu'est-ce que c'était le pire ?
Le pire, c'est l'après. C'est la gestion du séisme par les gouvernements haïtiens successifs et par la communauté internationale. C'est un terme que j'utilise avec beaucoup de réserve.
Parce qu'en termes de communauté, je ne sais pas si le mot convient. Hein. C'est du chacun pour soi, au fond. Hein.
C'est du chacun pour soi. C'est des luttes d'influence. Déjà, quand on parle de l'aide reçue par Haïti, on oublie de dire qu'une grande partie de cette aide, finalement, est retournée aux donateurs. Et on peut dire aussi que voilà 5 ans qu'une prétendue logique en... je dirais, de condescendance et de compassion à remplacer ce qu'il faudrait, une logique structurante.
Bien sûr.
Et donc, c'est un pays qu'on semble vouloir condamner à être toujours dans le besoin de réclamer de l'aide.
C'est quand même incroyable qu'en 5 ans, il ne se soit rien passé, car il ne s'est rien passé sur le plan institutionnel. Rien.
Il ne s'est rien passé. Il y a eu, mais il y avait déjà... avant le séisme, une parodie de démocratie formelle. Disons que nous avons des présidents qui sont à moitié élus par la population et pour l'autre moitié par les ambassades. Et nous avons des gouvernements qui opèrent un peu sous pilotage automatique de la communauté, encore de la communauté internationale. Donc nous sommes dans un grand mensonge et les conditions d'existence du peuple haïtien ne se sont guère améliorées.
Mais comment, au fond, le poète, le merveilleux poète que vous êtes, se nourrit-il d'une situation aussi inacceptable et choquante ?
Écoutez, pour être honnête, j'aurais préféré qu'il y ait moins de poésie et plus de bonheur dans la réalité concrète des gens, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent et qui nous disent « Ah, mais le malheur vous va bien, ce pays produit beaucoup d'écrivains, beaucoup de peintres, c'est un genre de discours qu'on entend souvent. Écoutez, moi, j'essaie de travailler avec mes yeux et mes oreilles. Donc, je travaille à partir du réel. Et hélas, le malheur est en bonne santé un peu partout dans le monde, mais en Haïti particulièrement. Donc, si vous voulez, nous, quand on écrit dans ce pays, on est tout de suite conscient des enjeux sociaux qui sont cachés derrière nos petits jeux d'écrivains. Et la réalité dans sa violence nous interpelle.
Mais c'est drôle parce que vous dites « nous » quand on écrit. Or, quand on parle des écrivains d'Haïti, on en cite 2 ou 3. Or, en réalité, et vous êtes le premier à le dire, il y a une extraordinaire vitalité de l'écriture et de la création haïtienne.
Oui, c'est une grande injustice. Moi, je répète souvent que le peuple haïtien n'a pas élu Lionel Trouillot, Franck Étienne, Daniela Ferrière et quelques autres représentants de la littérature haïtienne. Je pourrais vous dire que la plus grande zone de vitalité actuellement de l'écriture littéraire en Haïti, c'est la poésie, l'expression créole. Et je pourrais vous citer des noms. Je pourrais dire Jeudi, Inema, Mano Eugène, personne ne les connaît parce qu'ils ne sont pas inscrits dans les réseaux, dans les circuits de connexion, raison pour laquelle d'ailleurs nous publions bientôt, et je suis très fier de cela, une anthologie de la poésie créole en traduction pour qu'on sache que quand même Haïti c'est une terre de production littéraire et le genre dominant c'est la poésie. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont quelques romanciers haïtiens qui font un peu le tour du monde et qui passent souvent à leurs dépens comme étant les représentants de la littérature haïtienne. Je pense que quand on a la chance de pouvoir s'exprimer ailleurs, il est bien de porter toute la littérature haïtienne avec soi d'une certaine manière.
C'est la puissance du créole qui nourrit à ce point la langue, cette espèce d'efflorescence magnifique du langage.
Il y a les deux. Il y a déjà que c'est un pays qui a été condamné à l'isolement pendant longtemps par les grandes puissances, puisqu'Haïti c'est un pays qui obtient par la guerre son indépendance en 1804 et qui pendant quelques 50 ans a été, par les politiques menées par les grandes puissances, les États-Unis et la France en particulier, contraint de ne parler qu'à lui-même. Et il y a donc une parole qui a été portée par la poésie pour dire nous. La poésie en Haïti, ce n'est pas seulement le jeu du poète, c'est aussi le nous, le rêve d'épopée, le comment vivre ensemble. Et cette vitalité de la littérature dont vous parlez est aussi, hélas, la preuve qu'il y a un déficit par ailleurs. C'est le pays qui a fait la révolution la plus moderne des temps modernes et qui n'a pas su produire, je dirais, un discours politique. Et cette absence de discours politique a été portée par la littérature. D'ailleurs, souvent, Franck Etienne pourrait vous le dire, on nous demande à nous, écrivains haïtiens, d'intervenir directement dans le politique, parce qu'il y a quand même une pensée républicaine assez faible, mais il n'y a pas, je dirais, une production intellectuelle sur qu'allons-nous faire de ce pays. Cette production intellectuelle a été assumée uniquement par les littéraires, je dirais par les poètes en particulier.
Vous avez parlé de la parole politique. Tenez, arrêtons-nous un instant sur la parole politique. Quand vous entendez un président de la République en exercice à propos des réparations proposées à Haïti, évidemment, on pense à des réparations financières, puisqu'au moment de l'abolition de l'esclavage, on a fait payer aux Haïtiens le fait d'avoir abandonné l'esclavage. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ceux qui exploitaient les esclaves qui ont touché l'argent. Et voilà un président de la République, en l'occurrence François Hollande, il y a quelques jours, qui dit « réparation aux Haïtiens ». Puis quand il arrive à Haïti, il dit « oui, non, réparation morale ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de l'approximation du langage ou c'est quand même franchement se payer la tête des gens?
Écoutez, ça, je pense que c'est un problème pour les Français, puisque c'est quand même le président de la République française qui parle en votre nom. Donc, s'il y a eu écart ou déficit de langage, je pense que cet aspect-là, c'est plus un problème français qu'haïtien. Moi, ce que j'en dirais.
Pardon de vous interrompre un instant. Pour quelqu'un comme vous, et notamment les poètes qui savent à quel point les mots ont une importance première. Un mot dit beaucoup de choses. Dire réparation, ça engage, évidemment, dans l'esprit de chacun, et notamment des Haïtiens, quelque chose qui va relever de ce qu'ils ont dû payer pour être... Eh ben non. Et donc il y a abus de langage.
Je dois dire que les Haïtiens ont très mal vécu la chose, parce qu'il s'est passé peu de temps entre la première déclaration et... La deuxième, donc la première déclaration a été très bien reçue par les Haïtiens en se disant « Ah, enfin, la France, voilà qu'un responsable politique français reconnaît cette injustice et dit qu'il va la réparer. » Alors, quand ça s'est transformé en réparation morale, je dois dire que la population haïtienne a très mal pris cela, mais je dirais quand même que c'est un petit pas qu'un président français viennent en Haïti en visite officielle et reconnaissent quand même il s'est passé des choses qui sont de l'ordre de l'injustice, qui sont de l'ordre du crime historique. Donc c'est un premier pas, mais que la population haïtienne n'a pas vécu comme étant suffisant. Du point de vue général, il y a eu une grosse déception, il y a eu une folle espérance. Tiens, ils sont capables de dire ça. Et quand il y a eu cette sorte de retrait, sortant de la question financière pour aller vers un domaine moral, les gens ont dit « ils se moquent de nous ».
Vous êtes poète et très tolérant.
Alors les plus polis disent qu'il s'est quand même trompé, il y a eu un problème de langage.
Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça. Ce 25e Festival Étonnant Voyageur pose une question qui est « où allons-nous ?». Comment l'écrivain et poète que vous êtes pourrait répondre à une telle question aussi ouverte? Mais tout de même, s'agissant d'Haïti, comment peut-être faire en sorte qu'une société fondée sur l'inégalité car c'est le cas à Haïti, soit moins inégale. Par où faudrait-il passer ?
Et on ne peut passer que par le politique, on ne peut passer que par une prise de pouvoir et des orientations politiques pour transformer les rapports sociaux. Mais la difficulté, c'est que nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'inégalité ne semble plus faire problème. Et la question où allons-nous, moi je dirais peut-être qu'il faut se demander où ne faut-il pas aller. Et je crois qu'on va vers un discours sur la liberté qui est de plus en plus creux, parce qu'on peut vivre tranquillement avec les mourir de faim, on peut vivre tranquillement en voyant que toutes les richesses du monde sont concentrées aux mains d'un petit groupe, mais on devient soudain des vierges quand on dit la liberté est menacée. Je crois qu'il y a un discours de défense de la liberté, qui n'est qu'un mensonge finalement, parce que la liberté ça passe par l'égalité. Donc recommençons à parler de l'égalité entre les humains, parce qu'on n'a que la liberté qu'on peut avoir en fonction des conditions dans lesquelles on vit. Et Haïti, sans prendre mon pays pour un laboratoire, est un pays justement où on voit ce mensonge de la liberté. Écoutez, tous les 5 ans maintenant, nous votons. Nous votons dans quelles conditions ? Nous votons avec de l'argent qui nous vient de la communauté internationale et qui oriente nos votes. Ce ne sont même pas les Haïtiens qui font le décompte des votes. Ce sont des employés de la communauté internationale qui font le décompte des votes. Et je vois pas pourquoi on leur ferait confiance. Tout cela au nom de la liberté. Mais pendant qu'on parle de liberté, il y a des Haïtiens qui sont pauvres, qui vivent très mal, et ceux qui sont riches en Haïti sont de plus en plus riches.
Jean-Pierre Luminet, l'astrophysicien et poète que vous êtes, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux essais, romans et poésies, le dernier titre paru, c'est « Un énorme trou dans le ciel » aux éditions Bruno Doucet. La question posée est donc « Où allons-nous ?» Et pour répondre à une telle question, il faut savoir regarder autour de soi. Et vous dites, ça c'est le poète qui dit ça, et je trouve que c'est magnifique, que les lumières de la ville aujourd'hui éteignent les étoiles, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui existe. Dès lors, comment pouvoir répondre à une question quand on ne sait pas regarder ce qui est ?
Oui, aujourd'hui, plus de la moitié de la population du globe vit dans les villes, éclairée. Cet éclairage éteint le ciel. Il y a une perte dramatique de ce qu'on peut appeler le sentiment cosmique, le rapport direct que l'homme a eu depuis des millénaires au ciel, tout simplement en le regardant, en pouvant le voir, en ayant la possibilité de voir les étoiles, même la Voie lactée, au mieux, et de s'interroger, justement, avec cet imaginaire qui va constamment le pousser à imaginer, d'abord des mythes, et puis après essayer de éventuellement d'avoir une tentative de compréhension rationnelle de cet univers. Et je trouve que cette situation, elle est extrêmement dommageable, parce que voilà, beaucoup de jeunes, par exemple, ne sont jamais sortis des villes et n'ont jamais revu réellement le ciel qui est au-dessus de leur tête. Et donc, il y a une partie de l'imaginaire cosmique, qui nous relie directement les grandes interrogations, l'homme et le cosmos, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Beaucoup de gens ne se posent même plus la question.
Oui, mais c'est vertigineux.
Il y a cette perte de contact.
C'est vertigineux parce que déjà, si on ne voit plus les étoiles, vous dites que le monde visible, ce que nous pouvons voir, c'est 1% de la matière de l'univers. 1%. Si ce 1%-là, on ne peut plus ou on ne sait plus le voir, alors qu'est-ce qui nous reste ?
Oui, c'est
comment
vrai,
on va faire ?
C'est rendement paradoxal. Les développements de l'astrophysique, de la cosmologie moderne nous apprennent effectivement que dans les meilleures conditions, les plus grands télescopes du monde captent plusieurs centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Je vous rappelle qu'une galaxie, comme la nôtre, la Voie lactée, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et tout cela, que nous croyons être, donc c'est la matière lumineuse, que nous croyons être la matière universelle, dont nous sommes d'ailleurs formés. Vous savez que les atomes qui nous constituent ont été fabriqués par les étoiles, nous sommes poussière d'étoiles. Tout cela ne représente en fait que quelques pourcents à peine du contenu réel de l'univers en matière énergie. Donc, effectivement, se posent des problèmes fondamentaux sur qu'est-ce que la matière qui n'est pas là, que l'on ne voit pas directement, matière noire, énergie sombre. Ça fait partie des sujets les plus passionnants que nous étudions aujourd'hui. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, si sur cette part lumineuse qui représente
représente à peine 1% de l'univers, on ne la voit même plus.
Et voilà.
Bon, heureusement, il y a encore des astronomes qui la voient, qui l'observent. Voilà. Non, mais après, il suffit tout de même de quitter les villes et il suffit d'aller dans les campagnes. Ou en montagne, bien entendu, ou en mer. Et on retrouve à nouveau ce ciel-là. Et on a à nouveau ce que les premiers hommes d'il y a du néolithique, il y a des dizaines de milliers d'années, ont commencé à s'interroger en regardant la voûte céleste. Et puis, ils ont traduit leur étonnement, leur curiosité, leur questionnement, leur étonnement philosophique par toutes les disciplines humaines. L'art rupestre est une des manifestations de ce regard sur la nature, puisque dans certaines peintures rupestres, on voit les cycles de la Lune, phase de la Lune, par exemple, il y a des éléments astronomiques en dehors, après, à partir de la nature immédiate qui entoure les hommes de cette époque, qui sont les animaux. Donc, l'homme a un contact direct avec la nature. Mon ami philosophe Michel Onfray, qui je sais est très contesté, tout à fait normalement d'ailleurs, vient de publier un superbe ouvrage qui s'appelle Cosmos, où il dit bien cette perte de contact progressive que l'on a au cours de l'évolution de l'humanité avec tout simplement la nature, sans parler du cosmos lointain, des étoiles, où de toute façon on ne voit qu'une à l'œil, hein, on ne voit que quelques milliers d'étoiles, donc une partie dans les meilleures conditions. Après, il faut les télescopes pour voir autre chose, mais juste simplement la nature qui nous entoure.
Mais vous avez de la chance parce qu'au fond, en tant qu'astrophysicien et poète, la poésie confine à l'astrophysique, parce que vous dites que, puisqu'après tout on voit plus le visible ou de moins en moins le visible, il faut savoir visualiser l'invisible. Visualiser l'invisible, on est dans le champ de l'astrophysique ou dans celui de la poésie là ?
On est dans plusieurs champs. Donc l'astrophysique s'occupe effectivement d'une certaine façon de reconstituer l'invisible. Bon, tout d'abord, quand on parle au visible, on pense à la lumière. Il ne faut pas oublier que les astres nous envoient également d'autres informations, d'autres messagers de l'information que la lumière. Il peut y avoir des particules élémentaires qu'on appelle des neutrinos, des rayons cosmiques, tout un ensemble de choses. Donc on a à notre disposition tout un ensemble de messagers, d'informations que nous pouvons décoder, interpréter.
Parfois menteurs, parce que la lumière, elle est morte, certaines.
Oui, et puis il y a des illusions d'optique, ce qu'on appelle des mirages gravitationnels, des mirages topologiques, tout un ensemble de choses. Mais c'est fascinant, justement, d'essayer de décoder ces éventuelles illusions. Ça questionne toujours notre rapport à ce qu'est réellement le réel et à la façon dont on l'interprète. Mais après, il y a dedans aussi, au-delà de cette approche, il y a l'exploration du mystère par les autres voies de l'esprit humain qui sont complémentaires, tout aussi riches. Donc pour moi, par exemple, la poésie que je pratique depuis longtemps, bien avant, j'ai pratiqué la poésie et la littérature en général, bien avant de pratiquer des sciences. C'est absolument une composante essentielle de ma nature,
c'est
de ma personnalité et de mon approche. Non, pas particulièrement. Non, ce qui m'a conduit vers la science, c'est d'une part mon goût des mathématiques. Je suis un théoricien, hein, je suis pas un astronome qui fait des observations astronomiques, donc c'est mon goût pour l'abstraction mathématique, voilà.
Et puis après toujours l'étonnement. Mon nom luminé
était prédestiné. Bon, étudier la lumière. Bon, mais comme on vient de le dire, la lumière finalement ne représente qu'une pointe infinitésimale du véritable univers. Voilà. Et puis donc, je me suis essentiellement consacré à l'invisible, au trou noir et à la forme de l'espace que l'on ne voit pas directement. Non, mais pour en revenir sur, après, les autres modes d'approche du monde, Omar Khayyam, cet immense
poète,
mathématicien, astronome, etc., écrivait notamment dans ses magnifiques quatrains que c'est lui qui se contentait d'une seule forme d'appréhension de l'univers était nécessairement dans une impasse, et pour essayer au contraire de comprendre, essayer dans un peu de comprendre l'univers, il fallait explorer les différentes voies de l'esprit humain. Et pour moi, j'ai toujours fonctionné comme cela, à travers l'expression poétique, littéraire, la musique, la pratique des arts et la pratique des sciences. Et alors c'est vrai qu'il y a un client... Pardon.
Non, juste de poète à poète.
Oui.
Parce que, restons sur le champ poétique un instant encore, Jean-Pierre Luminet dit, Lionel Trouillot, que l'imagination est la reine du vrai. L'imagination est la reine du vrai. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
J'aime bien cette proposition, parce que il faut regarder les choses, à mon avis, non seulement dans leur aspect visible, immédiat, mais dans ce qu'elles pourraient signifier ou annoncer. Il y a toujours un au-delà, sans verser dans un quelconque mysticisme, un au-delà des choses à explorer. Je crois que La poésie peut, en effet, je ne sais pas si elle y parvient, mais je crois que c'est le seul langage capable vraiment de tenter de rendre ce surplus, cet être possible qui est dans le monde, qui est en nous. Il y a une dimension poétique, je crois, du réel que justement seule la poésie peut explorer. Et c'est bien de l'explorer pour ne pas réduire l'individu à ses conditions d'existence et pour ne pas réduire cette humanité à ce qu'elle a fait de pire ou uniquement à ce qu'elle a fait de tangible.
Mais il y a aussi, Jean-Pierre Luminet, qui est vraiment troublant et magnifique, les intuitions incroyables que certains peuvent avoir. Vous racontez l'histoire d'Edgar Poe, dans laquelle d'ailleurs Paul Valéry s'est engouffré un peu plus tard,
oui.
Mais qui est l'histoire du paradoxe de la lune noire. Ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire extraordinaire ?
De la nuit noire, pas de la lune
de
noire.
La nuit
de
noire.
La nuit noire, oui. Oui. Il y a une vingtaine d'années, j'ai publié une anthologie de textes poétiques en rapport avec justement l'interrogation devant le cosmos, mais l'interrogation du poète, cette fois-ci devant le cosmos, ça s'appelle « Les poètes et l'univers ». Et notamment, je mettais un extrait d'un texte d'Edgar Poe, qui s'appelle Eureka, qui a été publié en 1848, et dans ce texte-là, il y a la résolution d'une énigme astronomique et cosmologique, et la bonne solution que les astronomes n'avaient pas trouvée avant, s'interroger simplement pourquoi la nuit est noire, alors, parce que simplement parce que le soleil est couché, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus riche et beaucoup plus profond, parce que ça met en jeu une véritable conception cosmologique de l'univers. Par exemple, si l'univers était infini et éternel, il y aurait un nombre infini d'étoiles, et précisément donc la nuit ne pourrait pas être noire, car en quelques directions que l'on regarde, on rencontrerait la ligne de visée d'une étoile. Et Edgar Poe est le premier à avoir compris que la nuit était noire parce que les étoiles n'existaient pas depuis toute éternité et que la vitesse de la lumière était finie. Et donc en observant loin dans l'espace, on remontait dans le passé et on pouvait observer suffisamment loin pour arriver à une époque où les étoiles n'existaient pas encore pour contribuer à la lumière. Et il explique ainsi donc le paradoxe de la nuit noire. Mais ça montre bien, c'est un exemple parmi d'autres, combien effectivement l'imaginaire de l'artiste, du poète, peut parfois anticiper la créativité du scientifique, mais vice-versa aussi, bien entendu.
Aurore, oui.
Oui, sur l'imaginaire et puis sur l'intuition aussi, et sur la réflexion. Ces trois mots, en fait, ils sont liés, puisque dans l'intuition, alors l'intuition, intuitio en latin, c'est l'image réfléchie dans un miroir. L'imaginaire, on a bien la fameuse image, même le fantôme, hein, donc ce n'est pas le réel, mais c'est la représentation, ou alors la réflexion. Et la réflexion, il y a justement ce mouvement d'aller-retour entre ce qui quitte votre cerveau ou votre œil et y revient, ce que vous voyez dans le miroir, la réflexion de votre image. Donc en fait, ce mouvement d'aller-retour qui vous quitte et puis qui vous revient, il est partout dans l'idée d'imaginaire et de réflexion. Dire que l'imaginaire et la réflexion sont liés, c'est au fond revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'imaginaire, il n'y a rien de plus vrai.
Et il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'il y a un mot qui vous intéresse beaucoup, Jean-Pierre Luminet, l'élégance. Vous disiez que vous êtes un théoricien, l'élégance en mathématiques, c'est le summum. Hein.
Non seulement en mathématiques, mais dans toute la démarche scientifique, n'oublions pas que le scientifique essaie de décoder le cosmos et que l'étymologie grecque du mot cosmos signifie précisément beauté, ordre, arrangement, et c'est le projet de la naissance de la science au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est de supposer que l'univers est un cosmos, c'est-à-dire obéit à des lois, donc à une forme d'esthétique, et cette notion, ce sens de la beauté et d'élégance parcourt toute l'histoire des sciences, et essentiellement d'ailleurs les sciences physiques et mathématiques.
Mais vous vous amusez un peu comme le fait Aurore avec les mots, vous dites que entre cosmologie et cosmétologie, il n'y a pas une énorme différence.
Parce que c'était absolument
c'est la même racine.
La même racine étymologique, traité de la beauté.
Hein, c'est ça,
c'est tout à fait
ordre,
ça.
Beauté, arrangement,
oui.
Au fond.
Et d'ailleurs, l'élégance, dans l'élégance, il y a l'élection, le fait de choisir. Donc il y a quelque chose de très mathématique dans l'élégance. On choisit, on discerne, on discrimine, on ordonne.
Cher Paul Ajac, c'est bien de vous voir ici aussi.
Bonjour,
au Festival Étonnant Voyageur.
Mais écoutez, c'est un rêve d'être ici, n'est-ce pas, face à la mer. Eh bien, je vais venir derrière vous, après cette belle émission, sur un thème un peu contrasté, un peu à la Karen Blixen, ou peut-être pas, qui est les Afriques terribles et magnifiques, les Afriques rêvées d'autrefois, le paradis sauvage, et puis ce qu'est devenu aujourd'hui ce malheureux continent, avec trois auteurs remarquables, bien sûr. D'abord, Bretton Breitenbach, le grand écrivain, écrivain sud-africain pour un recueil de poèmes, La femme dans le soleil, qui paraît aux éditions Bruno Doucet. Ensuite, un premier roman absolument époustouflant, sidérant, qui s'appelle Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila et qui paraît aux éditions Métayer. Enfin, un document absolument inouï, déterré par Élise Fontaille Diaye. Je ne vous en dis pas plus. Il faut écouter. C'est une page d'histoire coloniale incroyable. Ça s'appelle Blue Book et ça paraît chez Calmann Lévy.
L'histoire coloniale, Lionel Trouillot, c'est aussi une sacrée matière hein, pour l'histoire aujourd'hui. Nous avions tout à l'heure un historien théoricien de l'histoire globale, Sanjay Subramanayam, qui dit à quel point il faut désormais penser notre histoire commune, c'est-à-dire notre histoire planétaire, en nous débarrassant du concept des frontières et des espaces tels que nous les avions jusqu'ici définis. Ça change tout, au fond. Hein.
Ça change tout, mais... à condition de revisiter véritablement l'histoire et de considérer toute la communauté humaine comme étant des sujets égaux. Et c'est ce qui est très difficile, je dirais, pour les sociétés dominantes, c'est de concevoir l'autre dans le droit qu'il a d'avoir sa propre vision du passé. Il y a des visions du passé qu'il faut mettre à égalité. Et c'est ça qui est difficile pour les, je dirais, pour les communautés dominantes, j'ose dire aussi pour un pays comme la France.
Quand vous dites, Jean-Pierre Luminet, que l'univers est, c'est magnifique d'ailleurs, est chiffonné, l'astrophysicien donne un sens particulier au mot chiffonné, mais on a l'impression à écouter et à regarder le monde tel qu'il va, qu'il est un peu aussi chiffonné dans nos têtes. Hein.
Oui. Alors effectivement, dans le monde des théories cosmologiques que j'ai développées, le terme chiffonné est une forme de métaphore. Mais oui, notre monde est chiffonné. Je voudrais simplement mentionner très très brièvement, en fait, l'actualité littéraire, c'est un roman d'histoire des sciences qui s'appelle Oulugh Beg, l'astronome de Samarcande, qui vient d'être publié aux éditions Jean-Claude Lattès, et qui montre justement, c'est un épisode qui se passe, c'est un prince astronome qui vivait au 15e siècle, et qui a payé de sa vie son intérêt pour l'astronomie face à une forme d'obscurantisme religieux que nous connaissons. Il était lui-même religieux, mais il faisait partie de donc la branche de l'islam ouverte, curieuse et désireuse de comprendre l'univers, ayant écrit par exemple au portail de l'une des mosquées qu'il avait fait construire à Boukhara, l'approche scientifique de l'univers est le devoir de tout musulman, homme et femme. Et puis il s'est heurté donc à la face obscure, l'obscurantisme religieux. Il a payé de sa vie. Voilà. Donc le monde était déjà chiffonné à l'époque. Donc c'est un sujet qui nous porte au 15e siècle et qui est d'une actualité évidemment brûlante. Et le sujet de l'émission d'aujourd'hui, où allons-nous parfois vraiment, je me le demande.
Oui, sauf que quand même, c'est une vraie question de voir qu'entre le 15e siècle et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup avancé sur la plateforme au fond. Hein. Et c'est une bonne occasion de vérifier l'importance d'un festival tel que celui-ci, où tous les points de vue, toutes les cultures, toutes les langues se croisent et nourrissent peut-être en effet une pensée du monde différente. Merci à vous tous en tout cas. Merci. Pour votre participation. Merci surtout à vous d'écouter France Inter. Il est à l'instant 14h.